Bonjour à toutes et à tous. Au milieu de ce dimanche, eh bien, nous faisons un retour sur un passé glorieux du clavier français. Et c'est un retour d'ailleurs sur un élément d'une dynastie. Je veux parler des Couperin. Eh oui, Couperin, ce nom, ce patronyme vous dira certainement quelque chose. C'est une famille qui habitait pas trop loin de Paris, d'ailleurs, à Chaumont-en-Brie. Et puis un jour, ils sont montés à la capitale. Et le premier d'entre eux qui s'est fait connaître, eh bien, c'est précisément l'objet de cette rencontre que j'ai avec Pierre Chalmeau. Pierre Chalmeau, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes pianiste. Et vous avez, jeune pianiste, mais déjà bien confirmé et connu et reconnu. Et vous avez enregistré des pièces de Louis Couperin, qui est donc ce premier, on peut dire véritable, premier de la dynastie, 1626-1661, dynastie dont je précise qu'elle s'est prolongée durant environ 2 siècles, puisque le dernier membre de la famille, Céleste, a tenu l'orgue de l'église Saint-Gervais jusqu'en, je crois, 1830. Elle est décédée en 1860. Et donc, ça couvre vraiment 2 siècles de musique avec, bien sûr, au milieu, François, dont on dit premier, et puis ensuite, le deuxième François, le grand, François Couperin, qui est le plus connu de la fratrie et de toute cette dynastie. Cette famille, d'ailleurs, est reconnue à près de Saint-Gervais, puisqu'il y a une plaque, d'ailleurs, aujourd'hui encore, qui rappelle la mémoire de cette lignée de musiciens hors pair. Alors, Pierre Chalmeau, pourquoi vous tournez-vous, ce jour-là, vers Louis Couperin ?
J'ai découvert Louis Couperin un peu par hasard. Frank Krafcik, compositeur et professeur au Conservatoire de Lyon, m'a prêté la partition de ses pièces pour clavecin. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il a pensé que ça pourrait m'intéresser, et en déchiffrant, ça m'a plus qu'intéressé, ça m'a vraiment passionné. Il y a plusieurs choses qui sont très attirantes tout de suite quand on connaît pas du tout Louis Couperin. C'est d'abord les préludes non mesurés qui ont une notation très particulière qui attire tout de suite l'attention visuellement quand on ouvre la partition, et qui est pas forcément très compréhensible d'ailleurs. Il faut vraiment s'y faire. C'est une notation où il n'y a pas de rythme écrit,
il n'y a pas de barre de mesure.
Il n'y a aucune barre de mesure, et donc ça correspond pas du tout à ce qu'on est habitué à lire. Donc ça évidemment attire l'attention. Il y a une sorte de bizarrerie. Et puis quand on déchiffre les pièces les unes après les autres, au départ, quand on ne connaît pas très bien, qu'on sait simplement que ça a 350 ans, on est étonné de tant de mélancolie, tant de romantisme un peu dans cette musique. Il y a une expression très forte, et tout ça dans des pièces très courtes, très brèves. Donc il y a d'abord une curiosité comme ça. Puis après, bon, le fait que ça fasse l'objet d'un disque, ça c'est parce que j'ai eu envie, on va dire, de faire un travail poussé. J'ai eu envie de faire découvrir ce compositeur qui est en fait pas connu du tout aujourd'hui du grand public. Enfin, il est très reconnu dans le monde baroque. Il est considéré comme un des plus grands compositeurs de la musique française du XVIIe siècle. Mais au piano, on le connaît pas du tout. Et donc c'est vrai que ça a fait l'objet d'un vrai projet.
On va l'entendre dans une pièce extraite de votre disque consacré à Louis Couperin. Il s'agit du prélude en do majeur de la suite de la Pavane, et on va après s'expliquer sur ces suites, parce que c'est tout l'objet et tout l'intérêt, pas tout, mais une grande part de l'intérêt de ce disque en particulier.
Thank you.
prélude en do majeur, extrait de la suite de la Pavane de Louis Couperin dans l'interprétation de Pierre Chalmeau. C'est un disque, je ne l'ai pas encore précisé, Fondamenta, qui a la particularité, je le dis tout de suite, d'introduire deux CD, un CD qui est plutôt propre à l'écoute sur un ordinateur et l'autre plus sur une chaîne de haute fidélité, donc un avantage, je crois, qu'on peut souligner, une innovation, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Pierre Chalmeau, cette suite, ce qui a attiré tout à fait mon attention au début, c'est, je vois trois suites. Une suite au tombeau, c'est vrai que le mot tombeau est, on sait dans la musique ancienne, en référence à une pièce qui est dédiée à un hommage à un compositeur la plupart du temps, mais pas toujours, bien sûr. Elias, ça m'a un petit peu surpris. On connaît le merveilleux oratorio de Félix Mendelssohn, par exemple. Et puis, de la Pavane, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et je me suis reporté, bien sûr, à ce livret, qui est très bien fait, que vous avez vous-même rédigé. Et qui est intéressant parce que vous avez fait un travail de reconstruction. Et, je dois le dire, en déontologie musicale, tout à fait admissible, puisque, en fait, à l'époque, la musique ne pouvait se concevoir que par l'interprète aussi, je crois. Qu'en pensez-vous, Pierre Chalmeau?
Je vous remercie de cette approbation. J'en aurais jamais assez. Je l'ai fait. Évidemment, je trouve que ça se tient artistiquement et c'est une manière de revisiter aussi cette musique. Il faut savoir que les pièces de Louis Couperin sont en vrac dans un grand recueil. Alors elles sont quand même classées, mais elles sont classées par genre, par tonalité, et donc on est certain que ce classement n'est pas le classement qui est destiné au concert. C'est un lieu de certitude absolue. Et donc on suppose, on a de fortes raisons de supposer que les pièces sont destinées à être regroupées sous forme de suite baroque, c'est-à-dire un ensemble de pièces de la même tonalité normalement, enfin habituellement à cette époque, et dans un ordre codé qui est variable, mais qui est codé. Mais cet aspect variable est important puisque en fait ça fait que il y a plusieurs combinaisons possibles pour les pièces de Louis Couperin, et tout interprète qui s'attelle à cette musique doit relever ce défi qui est de constituer ses suites, de toute façon, que ce soit dans les règles de l'art ou dans d'autres règles qui sont de l'art aussi, j'espère. Donc voilà, moi j'ai la question de la légitimité de ce projet a été une question centrale pour moi, parce que comme Louis Couperin n'avait jamais été enregistré au piano, que c'est un compositeur qui est vraiment resté chez les clavecinistes, contrairement à François Couperin qu'on entend tout le temps et qu'on entend depuis très longtemps au piano ou d'autres, je savais que je franchissais je brisais un tabou un petit peu, c'est-à-dire que Louis Couperin, quand on parle à un claveciniste, c'est vraiment intouchable, c'est presque un sacrilège de l'aborder au piano. Le Couperin, c'est il est un peu ce que Chopin est pour les pianistes, c'est-à-dire c'est une image identitaire très forte de l'art du clavecin, et l'aborder au piano, j'avais même entendu dire que jouer du Louis Couperin au piano, ce serait comme jouer du Schoenberg au clavecin.
Pourquoi pas,
tout à fait, mais en fait quand même je suis pas tout à fait d'accord, puisque il y a quand même un ordre chronologique dans tout ça et qui fait que tout n'est pas équivalent. Il y avait cette question très importante, et pour moi je l'ai résolue en allant sur un terrain que les clavecinistes n'explorait pas. Je me suis dit, alors si je dois développer mon approche, je vais le faire de manière très personnelle, et je vais en profiter pour fabriquer des suites très librement. C'est pour ça que j'ai dit des suites constituées en cycle, librement constituées sous forme de cycle. C'est parce qu'en fait, je suis plus dans l'état d'esprit d'un cycle tel que Brahms le pensait à la fin de sa vie, c'est-à-dire un ensemble de pièces qui fait une sorte de voyage structuré, plutôt qu'un vrai enchaînement de codé. Voilà.
On va écouter d'ailleurs la pièce qui suit la suite que vous avez en quelque sorte reconstituée, mais ça va au-delà de tout cela, hein, je pense. C'est la sarabande sublime, sarabande en la mineur. Sarabande de la mineur, extrait de la suite de la pavane dans l'interprétation de Pierre Chalmeau. Et Pierre Chalmeau nous expliquait qu'il avait parmi le monceau de pièces, j'allais dire éparses, c'est un peu ça d'une certaine façon, même si bien sûr on peut le... Enfin je pense que le compositeur l'ordonnait quand il l'interprétait, et vous avez décidé de d'un ordonnancement personnel, ce que la musique ancienne permet, justement, et même peut-être oblige, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est un regard sur le compositeur et l'interprète différent, je pense, de ce qu'aujourd'hui. Quand on sait qu'au XXe siècle, on n'est pas loin, on a eu parfois une notation scrupuleuse à la demi-mesure ou à la note, quoi.
C'est ça, c'est le terrain de liberté qui n'est pas le même. Vous disiez que cette musique oblige. Oui, d'une certaine manière, puisqu'il y a beaucoup de zones d'incertitude, puisque les partitions ne sont pas... on n'a pas de manuscrit autographe, on n'a que des copies anonymes. On ne sait même pas qui a copié les œuvres de Louis Couperin pour constituer ces immenses recueils qui ont été... Enfin, sept immenses recueils, il y en a un spécialement. Il y en a deux, en fait, mais principalement un qui est le manuscrit Bohun de Bersan, qui est une espèce d'immense recueil de la musique française du XVIIe siècle qui a été fait pour une famille, qui a été commandé par une famille. Et donc il y a un copiste qui a compilé, c'est une compile en fait, c'est vraiment ça, hein, qui a compilé tous les grands compositeurs, et il a fait ça à la fin du... Il a fait ça probablement vers 1670, je crois me souvenir, environ, juste après la mort de Louis Couperin, peut-être quelques années avant. Et C'est ça notre seule source de cette musique. Et donc oui, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de zones d'ombre. Mais en fait, c'est passionnant puisque il faut aller les reconstituer ces manques. Et ça, c'est sûr que ça implique beaucoup de choses. Et en fait, ça recoupe le travail du prélude non mesuré, qui est lui aussi un genre qui met l'interprète dans une situation obligée de réappropriation totale, puisque le concept d'exécution ne vaut plus, puisqu'on ne sait pas à quelle vitesse il faut jouer les notes. Il faut forcément choisir, faut recréer. Et donc oui, c'est sûr que ça nous fait éprouver notre métier d'interprète d'une manière extrême, on va dire.
Non, c'est tout à fait passionnant. Et c'est vrai que, je dirais, d'une certaine façon, on pourrait considérer que le travail de l'interprète, même de nos jours, est le même. Il faut toujours, comme j'ai eu le plaisir à le trouver sous les mots de Valentin Berlinski, dont j'ai chroniqué l'ouvrage « Quatuor d'une vie » il y a pas longtemps, et où il dit il faut prendre la partition, il faut résoudre ce que pose la partition et ensuite l'interpréter. Et je trouve que c'est intéressant de souligner cette étape. Et c'est vrai que en musique ancienne, c'est autre chose, c'est une autre façon de faire, mais c'est toujours la même problématique qui éclaire la liberté de l'interprète, mais une liberté à responsabilité lourde.
Avec cette double différence entre la musique ancienne et la musique, on va dire, plus récente, il y a d'abord la question, donc, que je disais, de la partition urtext, qui est un premier carcan. Il faut bien le dire quand même, quand on aborde une sonate de Beethoven, par exemple, on a un rapport au texte qui est totalitaire aujourd'hui, mais que j'ai aussi, hein, je veux dire, je suis pas en train de critiquer, vraiment, mais c'est sûr que chez Beethoven, on voit une petite liaison avec un point. S'il n'y a pas de point sur la deuxième note, c'est déjà pas la même chose que si c'est un point, et ça peut faire l'objet de débats interminables entre pianistes. Enfin, voilà, déjà, ça c'est une première zone de contrainte très forte pour nous, c'est l'urtexte, cette notion de texte d'origine, de texte absolu. Et l'autre chose, quand même très importante, c'est les centaines d'enregistrements qu'on a je vais rester sur Beethoven, qui est, je crois, peut-être mon compositeur préféré, mais on a des centaines d'enregistrements de la même sonate, et c'est sûr que le moment où on décide de la jouer, il faut aussi s'affranchir de toutes ces versions de Richter, de grands noms, de Schnabel qui peuvent qui peuvent rester comme des images très fortes et qui peuvent être aussi inhibantes. Et dans le cas de Louis Couperin, j'ai eu cette chance énorme de ne pas avoir de modèle pianistique. Alors j'ai écouté beaucoup de clavecinistes et ça m'a beaucoup passionné. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir le clavecin en profondeur, et ça je pense que ça me marquera pour très longtemps, et ça aura un impact sur ce que je ferai pendant de nombreuses années. Mais voilà, donc il y avait à plein de niveaux beaucoup de liberté, ce qui m'a amené, comme on l'a évoqué tout à l'heure avant l'émission, à donner des titres, voilà, pour aller au bout de ma démarche.
Oui. C'est le cas pour Elias, ça qu'on va entendre à l'instant.
Voilà.
Mais tout à fait.
On en reparlera après.
Mais je dois dire que dans ce livret, il y a effectivement une copie des partitions, et c'est vraiment tout à fait étonnant. On se demande si c'est une partition quand on la regarde pour la première fois. Thank you. C'est une courante. Un courant en do majeur, c'est extrait de la suite dite Elias, celui doigt de Pierre Chalmot, et donc Couperin, toujours Couperin, Louis Couperin, bien sûr. Et courante, c'est une dénomination de morceaux françaises.
C'est une danse baroque à trois temps qu'on trouve après l'allemande habituellement, entre l'allemande et la sarabande, qui est une danse plus vive souvent. Alors après, je vais pas non plus m'aventurer au-delà dans la définition d'une courante, parce que il y a beaucoup de types de courantes, il y a des courantes plus vives que d'autres. Je peux dire que dans les courantes de Louis Couperin, il y a une ambiguïté permanente entre le trois temps et le deux temps. Ça n'arrête pas de passer de l'un à l'autre, et voilà, je crois que c'est ce qui caractérise.
Dans une même pièce.
Oui, dans une même pièce. C'est pour six temps, on peut les diviser soit en trois et trois, soit en deux, deux et deux. Voilà. Donc ça fait soit trois blanches, soit deux blanches pointées pour ceux qui connaissent un peu le solfège. Mais donc c'est deux manières de mesurer le temps qui ont un dénominateur commun, mais qui changent de division. Voilà pour essayer d'expliquer.
Vous avez joué sur quel instrument ?
Alors
ça m'intéressait.
Le choix du piano était important puisque on avait avec le directeur du label Frédéric Dorian Nicolas on avait une envie
excellent pianiste par ailleurs
tout à fait on avait une envie de son proche on avait une envie de pureté alors voilà, ça a été l'objet d'une réflexion. J'ai choisi un Yamaha CFX qui est en fait, une gamme de pianos très récente. On peut pas faire plus moderne, on peut pas faire plus loin du clavecin que ça. Et donc, je dois dire que ça s'est imposé pour moi. Il y a eu aucun doute. Voilà, quand j'ai
au grand dam des claveciniste, mais nous n'en parlerons pas.
Ça dépend.
Peut-être que certains auront apprécié l'aventure, l'expérience.
Il y a plusieurs clavecinistes qui m'ont témoigné, on va dire. Des retours très sympathiques qui ont apprécié cette démarche. Non, justement, je crois que il faut un peu aujourd'hui s'émanciper de la dualité baroque moderne qui ressemble presque à une guerre plutôt même à une guéguerre, j'ai envie de dire, de conservatoire. Aujourd'hui, on peut aller un peu au-delà de ça mais je crois que le travail des baroqueux depuis un demi-siècle nous oblige à on va dire à peut-être se pencher un peu plus sérieusement sur l'origine de cette musique et de ne pas se contenter d'écouter Gould quand on veut jouer du Bach par exemple
intéressant
avec toute la passion que j'ai pour Gould et particulièrement dans Bach je crois qu'il faut aussi écouter d'autres choses pour s'intéresser à cette musique.
À ce propos, où pourrons-nous vous écouter ?
Alors justement, je jouerai du Louis Couperin à Lyon bientôt, le 21 juin. Je fais un programme avec la suite de la Pavane, donc dont on a entendu deux extraits. Et alors je vais aussi jouer du Chopin. Je n'ose pas dire que c'est une suite parce que ce serait un peu excessif, mais j'ai fait un regroupement de pièces en essayant un peu de m'inspirer de ces suites de Louis Couperin, c'est-à-dire en commençant par un prélude, en terminant avec une polonaise et en passant par d'autres danses. Il y aura une mazurka, une valse, mais il y aura aussi la berceuse.
Et ça sera à Lyon. Je pense que les concerts de musique classique sont annoncés très bien à Lyon, il n'y a aucun problème.
Voilà,
pour ceux qui seront sur la région lyonnaise, vous trouveront.
C'est dans le cadre des manifestations organisées par la mairie de Lyon la fête de la musique.
Ça suffit largement, c'est très bien. On va terminer par une volte. Alors, le mot, juste en deux mots.
Alors là,
c'est magnifique parce que c'est une pièce très courte. Mais pourquoi ce mot ?
Je vais vous dire très franchement, je sais pas exactement. Volte, c'est une danse. De toute façon, ce sont que des danses. À part les préludes et le tombeau n'est pas le tombeau de Blanc Rocher, qui est une grande pièce de Louis Couperin. N'est pas une danse. Mais sinon, ce sont toutes des danses. Donc c'est une danse à trois temps que j'ai interprété de manière assez vive. C'était assez
parfait. J'en recevais Pierre Chalmot. pour Louis Couperin, un enregistrement fondamental. Bon dimanche, bonne musique, on termine avec cette volte.